8h21, la suite des matins sur France Culture, où il est question de djihadisme. Nous sommes en compagnie du spécialiste de l'Afrique, Jean-François Bayard, lequel a publié « Violence et religion en Afrique, état de distorsion en Afrique de l'Ouest », spécialiste de l'Afrique et d'une partie du monde arabe. Et peut-être justement, pour continuer à évoquer la situation des djihadistes, puisque nous sommes partis du Mali au travers donc de l'affrontement entre Peul et Dogon, qui était surdéterminé par des questions religieuses, pour passer de l'autre côté, il y a un biais évident. Ce biais évident, c'est la frontière commune entre le Mali et l'Algérie, une frontière qui a eu un rôle politique éminent. Expliquez-nous pourquoi, Jean-François Bayard.
Un rôle politique et un rôle historique. Mais tout d'abord, il faut bien voir que l'affiliation de mouvements djihadistes en Afrique de l'Ouest, par exemple l'ACMI, etc., ou Boko Haram au Nigeria, aux grandes centrales djihadistes internationales, Al-Qaïda ou Daesh, l'État islamique, doit véritablement être relativisée. Pendant longtemps, c'est la thèse d'un certain nombre d'experts sécurocrates qu'avait reprise Nicolas...
Sécurocrate.
Oui, c'est-à-dire les intellectuels organiques de la sécurité, et qu'avait reprise...
Je n'avais jamais entendu le terme.
qu'avait reprise à son compte Nicolas Sarkozy en 2008, lorsqu'il avait parlé d'un arc djihadiste allant d'Afghanistan en Mauritanie. Ça c'est véritablement...
On continue à l'entendre. On nous dit finalement que ces djihadistes qui sont chassés, on va en parler, de Syrie, ils vont venir en Afrique noire.
Oui, alors c'est une vision complètement décalée. D'ailleurs, moi j'avais fait partie de la commission du Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale en 2012 précisément, et on avait réussi à évacuer cette notion d'arc de crise, parce qu'encore une fois, ce qui prévaut, ce sont ces logiques de terroir sur lesquelles insistent beaucoup mes deux co-auteurs, Ibrahima Poudiougou et Giovanni Zanelli.
Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des djihadistes qui ne sont pas expansionnistes ?
Ce sont des djihadistes qui ont éventuellement un agenda continental, régional, voire global, comme l'on dit, mais leur capacité de mobilisation repose sur des logiques qui sont des logiques de terroir, essentiellement des logiques agraires ou économiques. Ça, c'est absolument fondamental. Après, vous avez cette dimension religieuse qui est importante, qu'il faut comprendre. Mais alors, pour en revenir à la question que vous me posiez sur la frontière entre le Mali et l'Algérie, c'est une vieille histoire, parce que à la fin du 19e siècle, l'armée française venant d'Algérie et l'armée française venant de Bamako, ces deux armées françaises ont failli s'affronter militairement pour délimiter le partage entre l'Algérie française et ce que l'on appelait à l'époque le Soudan, qui deviendra le Mali. Bon. Ensuite, c'est une histoire que l'on retrouve pendant toute la colonisation, parce que le colonisateur français, notamment l'armée, va s'appuyer sur certains clans Touareg pour gouverner sur un mode indirect. Et lorsque la perspective de l'indépendance approche dans les années 1950, il y a un double problème. Le premier problème, c'est la réticence des Touareg, au sens générique et large du terme, mais aussi bien des Arabes, etc., de se trouver sous l'autorité politique de Bamako, et de gens qui n'ont rien à voir, ni religieusement, ni socialement, avec notamment tout le contexte historique de l'esclavage ou du post-esclavage. Et puis vous avez un autre problème, c'est qu'à l'époque, dans les années 1950, vous vous en souvenez, l'Algérie est en pleine guerre. Le FLN, le Front National de Libération, envoie tout d'abord un certain Frantz Fanon, nouer une alliance avec le Mali qui vient d'accéder à l'indépendance, qui est dirigé par un homme profondément nationaliste, Modibo Keïta, et qui est prêt à ouvrir un nouveau front, une nouvelle wilaya saharienne. Et ensuite...
Frantz Fanon qui deviendra, il faut le rappeler, un grand théoricien de l'anti-terre,
etc. Sur la base du rapport de Frantz Fanon, le Front de Libération Nationale Algérien envoie un certain Bouteflika, organisé à Kidal, dans le nord, une ville dont on entend beaucoup parler depuis l'opération Serval, dans le nord du Mali, qui vient organiser cette wilaya. Et encore aujourd'hui, en Algérie, l'on appelle ce qui reste de M. Bouteflika, Boudef le Malien. Bon. Donc vous avez toute cette mémoire historique et l'une des suspicions des élites politiques de Bamako à l'encontre des Touaregs, c'est cette tentative d'indépendance, enfin de constitution d'un État transsaharien par l'armée française pour distraire le Sahara de l'État algérien. Et notamment, c'était le Sahara du pétrole, c'était le Sahara de Reagan, des essais atomiques, etc. etc. Donc vous avez, si vous voulez, sur ces confins algéro-maliens, une histoire complexe, une très longue histoire qui reste extrêmement active. Alors un dernier mot sur cette chose, c'est que il faut quand même souligner la profonde ambivalence de l'Algérie sur la question djihadiste.
L'Algérie,
parce que grosso modo, l'Algérie est à l'Afrique de l'Ouest, ce que le Pakistan et à l'Afghanistan et à l'Inde. C'est-à-dire que se pose dans un rôle sécuritaire, anti-djihadiste, etc. Mais n'hésite pas, bien entendu, à instrumentaliser le djihadisme. Et ce que l'on a appelé ACMI, donc le premier groupement djihadiste au Mali, a été très largement externalisé par les services de sécurité algériens qui voulaient se débarrasser du problème qu'elle avait en partie couvé pendant toutes les années 1990.
Et alors justement, Jean-François Bayard, puisque aujourd'hui l'Algérie est en transition et aujourd'hui est sur le point donc de devoir opérer un tournant, en tout cas c'est ce que réclame une grande majorité des Algériens, que peut-il advenir de la politique sécuritaire algérienne? Est-ce que donc ce que certains redoutent, c'est-à-dire un retour de la guerre civile, en tout cas ce qui est agité par le pouvoir, est-ce véritablement un scénario? Et le risque djihadiste est-il important aujourd'hui dans ce pays?
D'abord, Guillaume Herner, vous êtes fort optimiste en parlant de transition, hein, parce qu'on peut aussi bien concevoir une restauration autoritaire telle qu'elle a prévalu sur un mode plus ou moins vigoureux dans la plupart des pays des dits printemps arabes. On peut envisager que les sécurocrates, puisque vous aimez le terme,
les
sécurocrates algériens non seulement agitent le spectre de la guerre civile, mais éventuellement le réactivent. Comme ils l'ont fait dans les années 1990.
Ça, en tout cas, ils le font pour la première partie de votre phrase, c'est déjà le cas.
Bon. Et comme, bien entendu, le régime Assad l'a fait en Syrie. Hein. Donc, aujourd'hui, il est tout à fait prématuré d'envisager ce que sera la politique algérienne au Sahara, mais quelle que soit l'issue de la crise ou du problème politique algérien, il faut voir que l'Algérie est un acteur majeur, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais par exemple en Tunisie, en particulier, bien entendu, par sa politique sécuritaire, mais également par le biais de la contrebande, y compris de la contrebande du pétrole, par exemple.
Anne-Clémentine Larocque vient de nous rejoindre. Bonjour, vous êtes maîtresse de conférences en relations internationales et vous avez notamment publié « Géopolitique des islamismes au Presse universitaire de France ». Il y a aujourd'hui une chose qui est certaine, c'est la chute du village de Baghouz en Syrie. L'État islamique donc ne contrôle ni n'occupe plus aucun territoire en Syrie comme en Irak. Votre point de vue sur cette chute, est-ce que ça signifie, Anne-Clémentine Larocque, que l'on est véritablement débarrassé aujourd'hui des djihadistes dans cette région?
Alors bonjour, absolument pas. C'est-à-dire que effectivement, là, on se plaît à croire, et Donald Trump a essayé justement de véhiculer ce message en disant, voilà, si on retire nos troupes, c'est que c'est 100% de réussite, il n'y a plus de djihadistes, notamment à Baghouz, ce qui est inexact dans le sens où vous avez des activistes islamistes radicaux, donc qu'ils soient État islamique ou que ce soit justement des groupes qui viennent plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire Al-Qaïda, l'ancien Front Jabhat al-Nusra, qui effectivement perpétue encore aujourd'hui des exactions en Syrie et en Irak. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, le regroupement territorial, la présence territoriale est en train de se disséminer, en effet, entre le désert d'Al-Soukna et l'Euphrate. Ça, c'est une vérité. C'est-à-dire que vous avez véritablement la reconquête d'Al-Baghouz depuis début mars, qui existe. Et effectivement, l'existence territoriale de l'État islamique n'existe plus. En revanche, une insurrection s'est totalement développée donc en Irak. On a une guérilla qui opère en Irak avec des modes opératoires nouveaux. On a aussi, par exemple, dans la province d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie, encore la présence de combattants de l'État islamique. Au nord-ouest également de l'Irak, et vous avez une dissémination donc du phénomène. Après, il faut regarder aussi à l'international, c'est-à-dire qu'en fait, Si en Syrie, en Irak, les choses sont en train de changer, vous avez aussi une restructuration de la stratégie de l'État islamique, que ce soit en Tunisie par exemple, en Nouvelle-Zélande, aussi aux Philippines, au Khorasan, c'est-à-dire en Afghanistan, Pakistan, etc. Vous avez donc véritablement une démobilisation militaire qui existe, mais une restructuration en fait de l'existence de l'État islamique. C'est-à-dire que c'est absolument pas fini. Il y a une clandestinité qui est en train de se mettre en place, faut pas tout confondre, et donc faut bien regarder les phénomènes dans tous les territoires.
Alors on évoque, par exemple dans la presse américaine ce matin, il était question du trésor de guerre de l'État islamique qui se chiffrerait en millions de dollars, plusieurs dizaines, peut-être centaines de millions de dollars. Est-ce que cela, par exemple, c'est un facteur important selon vous, Anne-Clémentine Larocque?
Ça montre une chose, c'est qu'effectivement, ils ont réussi en peu de temps, si je puis dire, à amasser une richesse importante avec des pôles de financement qui sont variés et qui ont surtout été utilisés très rapidement. On sait par exemple, on n'a pas entendu parler du pétrole, vous le savez, des œuvres d'art, mais aussi des butins et également de l'esclavage, de l'impôt qui a été mis en place aussi envers les populations qui ont été conquises. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, si on arrive à avoir justement cette idée de cette richesse, ça veut dire aussi qu'ils sont en train de déployer différents autres types de financement dans ce que je vous disais, dans les territoires qui sont en train de se renforcer.
Jean-François Bayard, un point de vue là-dessus.
Vous me posiez tout à l'heure la question des effets des interventions étrangères pour régler la question du terrorisme. Il me semble, mais je parle sous votre contrôle, vous connaissez mieux la question que moi, que Daesh est un bel exemple des effets pervers de toute intervention militaire. Parce que Daesh, qu'est-ce que c'est? C'est une joint venture entre Al-Qaïda de Ben Laden, établie, enfin sa mini-branche irakienne, et le vieil appareil sécuritaire du BAS qui est entré en résistance, et j'utilise le terme à dessein, contre l'occupation américaine. Daesh est un bel exemple des effets pervers de toute intervention militaire dans des régions qui sont extraordinairement complexes et que nous n'avons absolument pas les moyens de maîtriser, ni politiquement ni militairement.
Anne-Clémentine Larocque, votre point de vue là-dessus?
Absolument, c'est un objet hybride, hein. C'est-à-dire qu'effectivement vous avez non seulement une entrée en résistance, mais aussi une réaction contre l'installation des chiites au pouvoir par les Américains. Donc les conséquences de l'action américaine effectivement ont produit aussi la structuration de cette katiba d'Al-Zarqawi qui est devenue effectivement
une katiba,
donc un camp d'entraînement où effectivement se regroupent les djihadistes. Katiba qui sont finalement les cellules originales, je dirais, de ce qui va fonder ensuite une structure plus importante.
Mais alors, question naïve, Jean-François Bayard, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, on a évoqué le Mali, on évoque l'Irak, on pourrait évoquer l'Afghanistan. Je crains que le nombre d'interventions extérieures qui aient réussi à porter leurs fruits soit mince. J'utilise un euphémisme. Pourquoi dans ce cas-là persévérer?
Pour moi, ça relève un petit peu de l'hallucination collective, parce que aujourd'hui, la politique de la France en Afrique subsaharienne, elle est réduite à deux impératifs sécuritaires, ou supposait-elle. Le premier, c'est la lutte contre le terrorisme, et le second, c'est la lutte contre l'immigration. Concrètement, le dispositif anti-migratoire qui est déployé moins dans le nord du Mali que dans le nord du Niger, en l'occurrence, risque, selon toute vraisemblance, de relancer les rébellions Touareg dans le nord du Niger, puisque, au fond, le flux des migrants, c'est une ressource économique importante pour le nord du Niger. Ça fait marcher le business, ça fait marcher les transporteurs, par définition, ça fait marcher l'hôtellerie ou ce qui en tient lieu, ça fait marcher les restaurants ou les points d'alimentation, etc. Si vous étouffez ces flux migratoires, ces régions qui avaient tiré une certaine prospérité à un moment donné du tourisme international, mais naturellement il n'est plus de question de cela aujourd'hui, ces régions vont se retrouver sans aucune ressource et vraisemblablement vont reprendre les armes pour subsister tout simplement. Donc je crois que nous avons une politique à courte vue qu'Emmanuel Macron a entièrement reprise à son compte, et nous ne faisons plus aujourd'hui que du sécuritaire, et même l'Agence française de développement est aujourd'hui dans ses programmes de développement inféodée à un agenda sécuritaire.
Anne-Clémentine Larocque, votre point de vue là-dessus?
Oui, je pense qu'effectivement, on est en train de je ne sais pas si on a une politique de réflexion par rapport à tout ça. C'est-à-dire que on investit les lieux qui sont problématiques dans une volonté aussi, à mon avis, de pouvoir sécuriser ce qui se passe sur le territoire. Parce que c'est vrai que quand on regarde ce qui s'est passé en Syrie, en Irak depuis 2013-2014, la coalition internationale a été formée, vous le savez, en septembre 2014. L'opération Chamal, donc française, a déployé 1100 militaires sur zone, ce qui est quand même pas mal aujourd'hui, justement, par rapport au Sahel où il y en a à peu près 4000. C'est moins, mais quand même, on est présent. L'idée, c'est de pouvoir, effectivement, c'est de comprendre quelle est la bascule à faire entre le territoire lointain, si je puis dire, et ce qui se passe en France. On a bien vu que le djihadisme international, sa force, c'était la mise en place de réseaux qui, effectivement, se situent sur des territoires locaux qui sont greffés à des territoires internationaux. L'objectif, c'est d'arriver à suturer tout ça. Je suis pas sûre aujourd'hui qu'effectivement aujourd'hui il y a beaucoup moins de réseaux et de commandos qui sont organisés de l'extérieur. Mais comme je vous l'ai dit, il y a une restructuration aussi des mots déparatoires. On ne sait pas véritablement ce qui va se passer dans le futur. Et ça peut être de toute façon réactivé. Moi, je pense que là-dessus, il faut être extrêmement vigilant.
Jean-François Bayard.
Le problème, c'est que la présence militaire ne permet pas de contrôler le territoire. Et ce qui s'est passé au Mali le montre bien. L'armée française est présente au Mali. Les événements tout à fait malheureux que vous évoquiez au début de l'émission sont survenus. Donc non seulement nous ne les empêchons pas, mais en plus, d'une certaine manière, nous les cautionnons. Non, en étant présent militairement et politiquement en appuyant le gouvernement central. Par ailleurs, il faut bien voir que toute opération militaire, quel que soit le scrupule et l'attention qui portent les opérateurs militaires eux-mêmes, comporte de véritables risques de bavure, engendre des déplacements de population et que tout cela contribue à l'exacerbation des tensions sociales qui sont constitutives du djihad.
On continue à évoquer la situation à 8h37 sur France Culture. La situation donc des djihadistes, on l'a évoqué en Afrique, on l'évoque maintenant en Syrie, puis dans les autres pays de la région. Nous sommes en compagnie de Jean-François Bayard et d'Anne-Clémentine Larocque. Anne-Clémentine Larocque, en dehors de la Syrie, quels sont les autres points, les autres abcès de fixation des djihadistes? Vous évoquiez par exemple la Tunisie, que se passe-t-il?
Oui, alors la Tunisie, depuis à peu près un mois, on a retrouvé en fait les traces d'une organisation de plusieurs protagonistes qui voudraient remettre en place une province, donc wilayat, de l'État islamique au nord-est de la Tunisie. Cette donne est importante dans le sens où la Tunisie, vous le savez, a été touchée par plusieurs attentats, notamment à partir de 2012, mais particulièrement en 2015 avec le Bardo, avec Sousse. On a eu très peur, effectivement, comme vous le disiez tout à fait justement, quand même encadré par la Libye et l'Algérie, qui sont quand même deux, je dirais, pays qui ont ouvert les katibas, les armes, depuis pas mal d'années pour l'Algérie et depuis 2011 pour la Libye. Donc la Tunisie essaye de résister véritablement avec des islamistes qui sont force majoritaire, mais qui sont contredits par des forces salafistes et des forces à la fois djihadistes. Et l'État islamique aurait encore les moyens d'imposer, en fait, une certaine force et d'insurrection, mais aussi politique dans ce pays.
C'est-à-dire
qu'en fait ils seraient en train d'organiser davantage d'attentats, mais aussi un positionnement territorial au nord-est de la Tunisie pour pouvoir justement faire encore le lien entre les katibas d'Algérie et les katibas libyennes.
Jean-François Bayard, sur la Tunisie.
Ce qui renvoie à la dimension sociale, c'est que le développement et la formation de l'État en Tunisie ont été complètement asymétrique et que l'arrière-pays est dans une situation de déshérence sociale qui est à l'origine de ce que l'on a appelé le printemps arabe, de la révolte 2010-2011. Cette déshérence économique et sociale à laquelle le nouveau régime n'a absolument pas répondu, naturellement, constitue un terreau favorable au recrutement djihadiste. Vous avez un désespoir social dans ces province que j'ai eu l'occasion de visiter, qui est absolument effrayant. Hein. Mais on peut également penser au RIF au Maroc, qui est lui aussi une zone en déshérence sociale, avec une crise très mal gérée actuellement par le pouvoir politique marocain, que l'on a connu plus habile dans...
Pourquoi ? Pourquoi gère-t-il mal la crise ? Puisqu'on explique depuis quelque temps, effectivement, que le roi est un peu dépassé par la situation, en tout cas inerte, qu'il n'agit pas comme il pourrait agir.
Je ne dirais pas cela. Bon, de toute façon, je ne suis pas un spécialiste du Maroc, mais on voit bien en effet que l'institution monarchique marocaine, c'est pas simplement le roi, a une politique essentiellement répressive, très maladroite, dans un RIF qui est un gros exportateur de djihadistes. C'est pour les mêmes raisons sociales que l'on a évoquées à propos de la Tunisie.
Anne-Clémentine Larocque.
Le RIF, c'est traditionnellement en fait une zone effectivement très pauvre qui a été bien encline à recevoir tous les trafiquants et à justement générer des trafiquants. L'immigration donc des rifins en France notamment, dans le sud-ouest de la France
et
par exemple,
Belgique,
et en Belgique effectivement avec Molenbeek, donc cette triangulaire qui s'est mise en place en fait entre le continent africain, la France et la Belgique date pas du tout des années 2010, mais date au contraire des années 70-80, quand il y a eu un déplacement où on a structuré comme ça, eh bien, effectivement, des populations qui étaient paupérisées et qui ont voulu aller chercher autre chose ailleurs. Le RIF, c'est aussi une zone qu'Hassan II, donc le père du roi Mohamed VI, eh bien, a complètement laissé tomber. Mais sciemment, c'est-à-dire qu'il y a eu clairement...
À la suite du soulèvement de 58...
Exactement, à la suite du soulèvement. Et donc, dans cette mesure-là, le RIF, c'est un territoire, effectivement, qui symptomatise un peu tous les maux du Maroc et qui continue, finalement, de montrer que le Maroc n'a pas résolu toutes ses énigmes, bien au contraire.
Avec une crise sociale qui est même plus large et qui dépasse la question du RIF aujourd'hui au Maroc et une certaine impuissance, quand même, des pouvoirs publics.
C'est ça, et donc le PJD, donc les islamistes qui ont été élus depuis 2011, puis réélus en 2016, n'ont pas, et c'est comme Ennahda, hein, de toute façon aussi, ou Nedat Ounes en Tunisie, n'ont pas réussi de toute façon à juguler le problème de la crise économique. C'est ça le problème, c'est que, si vous voulez, on a eu des avancées sur un plan de liberté, éventuellement, de droit.
Avec beaucoup de régressions actuellement.
Et avec beaucoup de régressions actuellement, mais qui n'ont pas réussi à pallier les manques de toute façon économiques qui sont à la base de la grogne sociale. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui est bien fait que ces territoires-là peuvent être tout à fait fragilisés.
Anne-Clémentine Larocque, vous qui avez publié notamment Géopolitique des islamismes, qu'est-ce que l'on pourrait faire dans ces différents pays? On pourrait d'ailleurs évoquer pour finir l'Égypte, où là aussi on a des islamistes, semble-t-il, assez prospères, notamment dans le Sinaï.
Alors j'ai surtout développé ça dans mon essai L'islamisme au pouvoir, qui est sorti l'année dernière, justement, Tunisie, Égypte et Maroc. Et effectivement, le Sinaï est la troisième zone, je dirais, d'inquiétude. Aujourd'hui, vous avez encore l'opération donc Sinaï qui a été lancée en 2018 par Al-Sisi, suite, souvenez-vous, à l'attentat donc qui avait fait plus de 300 morts dans une mosquée soufie. C'est un attentat très très important qui n'a jamais été revendiqué, mais on sait que l'État islamique est derrière. Cette zone du Sinaï, elle est quand même extrêmement fragilisée. C'est une zone insurrectionnelle, c'est-à-dire l'État n'arrive pas justement à se mobiliser véritablement sur cette zone. Des problèmes de tribus aussi, d'opposition de tribus qui sont instrumentalisées, comme on l'a dit aussi, par les djihadistes. Une porosité avec la frontière, bien sûr, avec Israël et tout le conflit israélo-palestinien qui a nourri aussi des problèmes dans le Sinaï. Et cette installation du Wilayat Sinaï, c'est-à-dire de l'État islamique depuis 2015, dans la zone, font que c'est une zone qui est insécurisée et qui peut, encore une fois, amener le problème, je dirais, syrien-irakien aux portes du Caire.
Jean-François Bayard.
Oui, et avec la répression d'au moins une composante d'expression politique de l'islam, à savoir les frères musulmans. Je dis au moins parce que les salafistes ont plutôt été cooptés par le régime du maréchal Sisi. Mais je pense qu'en Égypte, le problème, là aussi, est social, économique et politique. Et interdire toute forme d'expression politique de l'islam dans une société qui... dans la société civile est très largement constituée par des institutions ou des forces religieuses, c'est complètement inviable, et cela se traduit inévitablement par des tensions, par une espèce de militarisation, si vous voulez, du problème.
Anne-Clémentine Larocque, qu'est-ce que l'on peut faire dans ce contexte-là ?
Être pédagogue, c'est-à-dire expliquer aux gens aussi la différence, je pense, encore une fois, entre les salafistes, les frères musulmans, les musulmans eux-mêmes, et essayer aussi d'avoir une vision globale. C'est-à-dire que là, on vient de parler du monde musulman, du Dar al-Islam. Il faut regarder aussi, justement, là où l'État islamique s'installe dans un monde qui ne soit pas musulman d'origine, et non arabe, surtout. Je l'ai mentionné, les Philippines, par exemple, mais aussi, bien sûr, le Rorasan, donc l'Afghanistan et le Pakistan, qui sont traditionnellement plutôt caïdistes, avec une présence des talibans, donc ce qui floute aussi les choses, et aussi une volonté, une perspective dans, en Asie centrale pour l'État islamique de se développer. Donc il faut regarder, je dirais, la chose de manière globale, ne pas regarder que la France, ne pas regarder que l'Afrique du Nord, mais aussi regarder comment est-ce que se déploie et s'organise cette organisation terroriste qui reste très dynamique à l'heure actuelle.
Est-ce que ça veut dire, juste pour conclure, Anne-Clémentine Larocque, qu'il faudrait choisir entre des régimes qui seraient des régimes terroristes modérés et des régimes terroristes durs, des régimes...
Alors, terroristes modérés, je ne connais pas. Mais en tout cas,
le choix qui avait
peut-être,
été fait.
Juste ce que j'ai développé dans mon essai comme hypothèse en tout cas, c'est que le fait d'arriver au pouvoir pour des partis islamistes d'origine frériste, donc frères musulmans, a forcément eu un effet sur la communication de ces partis qui ont voulu se normaliser et qui, pour certains, ont lâché leur matrice idéologique religieuse. Je ne sais pas si c'est un espoir, mais en tout cas, ça diversifie la donne islamiste.
Un dernier mot, Jean-François Bayard.
Dans les années 1950, la France refusait de négocier avec les terroristes du FLN. Les États-Unis sont intervenus en Afghanistan pour renverser les talibans il y a une vingtaine d'années, et aujourd'hui négocient avec les talibans. Donc il y a bien un moment où il faudra négocier avec les gens que l'on qualifie aujourd'hui de terroristes.
Merci à tous les deux. Vous restez en notre compagnie, Anne-Clémentine Larocque. Vous avez notamment publié L'islamisme au pouvoir Tunisie, Égypte, Maroc, c'est aux presses universitaires de France, et Géopolitique des islamismes, et Jean-François Bayard, Violence et religion en Afrique et l'état de distorsion en Afrique de l'Ouest. Vos livres chez Cartala Éditions.